Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission au Capi Service en direct de l'Université protestante au Congo. Est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Bienvenue à tous dans cette émission spéciale où nous allons parler de l'intelligence artificielle, les opportunités et les défis. Merci d'être là nombreux pour participer à cette émission et nous avons sur ce plateau Dr. Robert Kouimbi Bibikane qui est le recteur de l'Université protestante au Congo. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut l'applaudir très très fort. Monsieur Jean-Luc Mugongwa, coordonnateur de l'agence pour le développement du numérique, il est le coordonnateur adjoint. Est-ce qu'on peut l'encourager également? Monsieur Zéphirin Tchaba, ingénieur informaticien et directeur général d'Acid Learning and Solutions, sous vos applaudissements. Sans oublier le doyen de la faculté des sciences informatiques, le professeur Koutangila, sous vos applaudissements. Merci de l'accueillir. Et merci à vous tous ceux qui êtes là pour participer à cette émission. Merci à la grande équipe de production multimédia de Radio Capi et à l'équipe FM. Et merci à vous tous qui nous suivez sur les plateformes digitales des Radio Capi partout où vous êtes à travers le monde. Et bienvenue, il ne reste plus qu'à vous dire bienvenue et bonne condition d'écoute de cette émission au Capi Service sur l'intelligence artificielle et le développement des compétences en informatique en direct de l'Université protestante au Congo. Applaudissez pour vous-même. Bien. Nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle ces derniers temps. En quelques années, elle est passée de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, elle est partout, dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures et même dans nos maisons. Pour certains, cette avancée technologique est utilisée pour développer et faire progresser de nombreux domaines et industries, y compris la finance, la santé, l'éducation, le transport, la sécurité et plus encore. D'autres redoutent la perte de leurs emplois du fait que les ordinateurs sont maintenant capables de reproduire des comportements liés aux humains ou d'exécuter des tâches normalement qui sont associées à l'intelligence humaine. Alors, quels sont les atouts, les opportunités et les défis de l'IA, de l'intelligence artificielle? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Je vais donner la parole au professeur, au docteur Robert Kouimbi Bibikane. Monsieur le recteur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, un mot avant d'aller plus loin.
Bien, je souhaite la bienvenue à la radio Okapi qui est venue ici à l'Université protestante du Congo et aussi la bienvenue à tous les auditeurs, auditrices de la radio Okapi, à l'UPC, la radio Okapi encore plus près de vous pour mieux vous servir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour cet accueil. Alors, l'intelligence artificielle, ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr, aujourd'hui, à travers le monde, on parle de l'intelligence artificielle, qui est différente de l'intelligence naturelle, où on met l'accent sur la digitalisation, sur la découverte de plusieurs programmes, de plusieurs projets, et cela permet d'aller plus vite. Hein, tout va vite, tout marche très vite. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est le fait que vous parlerez de défis, parce qu'il y a plusieurs défis à relever, et les opportunités. Peut-être qu'il faut aussi ajouter les menaces. Mais ce qui est très important aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de cette intelligence artificielle qui nous amène à la découverte de plusieurs aspects de la vie et qui facilite la vie par rapport au passé.
Et on a appris qu'ici à l'UPC, vous êtes déjà très avancé avec le...
L'Université protestante au Congo, vous et soi aujourd'hui au travers de la faculté des sciences informatiques, qu'il y a ici un centre, écoutez bien, un centre de sciences informatiques, mais plus un centre d'intelligence artificielle. C'est à l'UPC aujourd'hui, à travers la RDC, qu'il y a ce centre-là, hein, le centre d'intelligence artificielle, le centre de génie informatique. Et le doyen de la faculté de sciences informatiques, Le professeur David Koutang, il a parlé déjà de l'intelligence artificielle il y a de cela 15 ans à l'Université protestante du Congo, avant que tout le Congo en parle. Et il sera d'ailleurs après moi, c'est mieux qu'il vienne à ce plateau pour vous parler mieux de cela. Donc à l'UPC, nous ne parlons pas de l'intelligence artificielle, mais nous vivons l'intelligence artificielle.
On ne parle pas de l'intelligence, mais on vit l'intelligence artificielle. Ça, c'est bien dit. Monsieur, merci beaucoup, monsieur le recteur. Je pense qu'on va, on va vous libérer et accueillir monsieur David Koutangila. Peut-être que vous avez un autre mot à dire.
Applaudissez très fort la radio Kapi!
Merci beaucoup. C'est la remise et reprise entre les recteurs et le doyen. Bienvenue. Prenez place. Bien, je vais adresser la parole à Monsieur Jean-Luc Mugongwa, qui est coordonnateur adjoint de l'Agence pour le développement du numérique. Alors, Monsieur Jean-Luc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cela, et quelles sont les opportunités que cela apporte surtout pour la République démocratique du Congo?
D'abord, bonjour à tous. Et je tiens à remercier l'UPC de nous avoir accueillis ici dans ce centre du savoir et l'avenir de la RDC. Je remercie également Radio Okapi pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir sensibiliser sur ce sujet hautement stratégique qu'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux ordinateurs d'avoir des comportements et de se comporter comme des humains. C'est pour ça que nous parlons d'intelligence. Donc les ensembles des compétences cognitives qu'on apporte aux humains, on essaye de les reproduire. C'est une reproduction qu'on tente de faire à travers l'intelligence artificielle. Et ce faisant, c'est un secteur qui ouvre des grandes opportunités et des défis pour les personnes, les utilisateurs que vous êtes, que nous serons, pour les États qui doivent voir également comment tirer parti de cette technologie. Où j'aimerais vous sensibiliser, c'est que l'intelligence artificielle n'est que l'étape suivante dans cette transformation et l'apport de la technologie dans nos vies humaines. En réalité, nous parlons d'informatique, nous parlons d'information, et tout cela concerne la manière dont l'information est traitée, stockée, diffusée. Et l'informatique à la base, qu'est-ce qu'elle a permis de faire? Elle a permis d'apporter une efficience dans la manière dont ces informations sont stockées, diffusées. Et ça a permis d'avoir des gains de productivité dans tous les secteurs. Et notamment aujourd'hui, aucune entreprise compétitive ne peut penser être efficace sans l'informatique. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle apporte? L'intelligence artificielle est un accélérateur, dans le sens où maintenant, le traitement lui-même de la donnée qui était fait avant par des humains avec les connaissances humaines qu'on acquiert à travers les universités et les cycles de formation, sont maintenant reproduites au niveau des ordinateurs. C'est-à-dire que pour le cas des analyses, aujourd'hui, un simple ordinateur, avec les algorithmes d'intelligence artificielle, est en mesure de traiter en une seconde un ensemble d'informations qu'un analyste pourrait prendre 10 ans ou 15 ans à traiter. Donc nous sommes dans l'accélération du traitement de l'information qui donne des avantages stratégiques à tous ces utilisateurs. Que vous soyez un employé et que vous vous aidez de l'intelligence artificielle pour faire vos recherches, que vous soyez un développeur, que vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider à rapidement concevoir et créer ces codes, que vous soyez un État et que vous utilisez ces technologies pour vous permettre d'appréhender rapidement les grandes questions des États telles que les mouvements de la population, la circulation, la sécurité, la défense. C'est une technologie qui change la donne. Et nous devons, nous, en RDC, pouvoir nous l'approprier pour pouvoir être dans le jet de nations. Le risque que nous perdons, c'est que d'une part, pour les jeunes que vous êtes et les employés de ce pays, ne plus être en mesure de travailler selon les normes internationales. Et pour l'État, c'est le risque d'être laissé pour compte et de ne plus être en mesure de pouvoir échanger, discuter et rivaliser avec les autres États. Voilà ce que je peux dire rapidement concernant les enjeux de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle représente pour l'état de la RDC que nous représentons tous ici. Et je serai ravi d'échanger avec vous, d'aller plus en détail avec vos différentes questions.
Bien. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Mungongwa. Monsieur Zéphirin Tchaba, vous êtes ingénieur informaticien et directeur général d'Acid Learning and Solution. Parlez-nous d'abord d'Acid Learning, de quoi il s'agit?
Merci beaucoup. Acid Learning and Solution, c'est d'abord un centre de formation et de certification internationale en système d'information, en informatique. Si vous regardez la bâche qui est derrière, vous allez voir que nous sommes autorisés par les Contia, dont je porte déjà une marque. Contia, il est le premier éditeur de formation informatique dans le monde. Lorsqu'on parle de la formation et des compétences, c'est le Contia qui est le numéro un. En lui, il y a Cisco, il y a Microsoft, il y a tous les éditeurs là avec qui il collabore. Donc nous sommes le premier centre de formation accrédité en RDC. Et en dehors de ça, nous évoluons aussi dans les prestations de services comme informaticiens, d'une manière générale.
D'accord. L'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus. Et j'ai même appris ce matin qu'on pourra désormais corriger l'examen d'État grâce à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est... Ça a été évoqué dernièrement. Voilà, il semble que les étudiants aussi, pour faire leurs travaux, ils peuvent recourir. Finalement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut, on peut faire avec, Monsieur Zéphirin?
Bon, d'une manière brève, d'une manière moins brève et synthétique, l'ordinateur a été conçu pour faciliter la collaboration entre l'homme et la machine, dès les débuts de sa conception. C'était déjà là les débuts de l'intelligence artificielle. Je remercie quand même notre recteur qui l'a dit, vous avez commencé, il y a plus de 15 ans qu'on en parlait ici à l'UPC. Mais ça date déjà, l'ordinateur lui-même, c'était déjà l'intelligence artificielle. On améliore les outils. Et on a seulement amélioré les outils de recherche pour faciliter l'être humain à monter en hauteur avec ses capacités de recherche, ses capacités de conception, ses capacités de... je ne sais pas, de monter les... Donc, de faire des recherches d'une manière qui est générale. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un mot nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Néanmoins, pour l'instant, il touche plusieurs secteurs de l'être humain. Mais ce n'est pas du nouveau. Ça existait il y a des années.
Je pense que... Alors, en quoi ça peut nous aider? Quelles sont les opportunités que ça peut nous offrir?
Chaque secteur a ses opportunités. Les étudiants peuvent en profiter pour faire des recherches, pour améliorer leur capacité au niveau des études. Les développeurs peuvent aussi se ressourcer. Donc chaque secteur, les gens qui sont les bureautiques, qui font de la bureautique au niveau du bureau, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle Microsoft 365 Copilot. Copilot, c'est un outil de Microsoft développé comme intelligence artificielle pour permettre aux gens qui sont dans des bureaux d'utiliser, de faciliter l'utilisation d'Excel, de Word, etc., etc. Donc chacun d'abord dans son secteur peut chercher les outils qui peuvent lui permettre à se développer, à améliorer ses compétences.
Mais Monsieur Zéphirin, il semble que beaucoup de gens risquent de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Plus on fait recours à l'intelligence artificielle, on aura de moins en moins besoin de certaines personnes dans certains secteurs.
Et il ne faut pas se décourager à ce niveau-là. Le monde est numérique, le monde n'est pas statique, le monde est dynamique. Il faut que l'homme arrive à s'adapter à la vitesse de la technologie maintenant pour mieux vivre. C'est comme les amis avec qui on a fini les humanités ou soit l'université, qui n'ont pas évolué à ajouter une formation quelconque ou bien une spécialisation. Ils sont restés des cadavres intellectuels. Ils n'ont rien. C'est de la même manière. Si vous ne vous adaptez pas à la vitesse de la technologie, vous serez vraiment, donc d'une manière générale, inutile. Donc, on ne peut pas perdre un boulot parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Et il faut seulement s'adapter à la vitesse de la technologie pour ne pas perdre du travail. C'est tout.
D'accord. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au professeur Koutangila, David, doyen de la faculté des sciences informatiques. Alors, monsieur le doyen, dites-nous, parlez-nous de l'intelligence artificielle et particulièrement de ce que vous faites déjà ici, dans votre centre de l'IA.
Oui, merci beaucoup pour la parole. L'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique, bien sûr, qui permet de doter aux machines, pas seulement les ordinateurs, mais les machines, hein, les hardware, des capacités intellectuelles, notamment la perception, c'est-à-dire voir son environnement, le raisonnement, raisonner sur ce qu'il a perçu, agir, c'est-à-dire prendre des décisions après avoir réfléchi, après avoir raisonné. Il faut prendre des décisions, alors des décisions rationnelles, apprendre à partir de ce qu'elle observe, la machine, apprendre et même prédire l'avenir. Donc vous voyez que la prophétie n'est plus seulement aujourd'hui le domaine de l'Église. L'intelligence artificielle peut prédire. Il y a des algorithmes.
Prédire l'avenir.
Prédire, oui. Prédire.
Comment?
C'est-à-dire, par exemple, si nous prenons le domaine, n'importe quel domaine économique, avec la masse de données économiques que nous avons, ou des données sur les entreprises, les données bancaires, etc., si ça constitue un grand volume, on parle de big data, donc un grand volume soumis par exemple aux algorithmes de machine learning dans le data science, donc l'ordinateur peut vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, avec ces données, vous êtes ceci ou cela. Ou bien si vous donnez, si par exemple parmi les prédicteurs, c'est-à-dire les éléments qui permettent au système de dire ce qu'il y aura, il y a par exemple l'année. On dit avec ces données telles que nous sommes, en telle année, nous pouvons être comment? Vous savez que c'est, il y a aussi d'autres algorithmes qui entrent à l'intérieur, par exemple comme la prédiction des séries chronologiques, c'est déjà en statistique. Donc, les mêmes séries, on peut dire que à cette allure, toute chose restant égale par ailleurs, l'économie augmentera ou bien nous allons faire une crise, etc. On oui. peut prédire même les épidémies, tout ça. C'est possible.
C'est possible grâce à l'intelligence artificielle.
Intelligence artificielle.
Alors ici, dans votre centre de l'IA, qu'est-ce que vous avez pu réaliser?
Le centre de recherche en intelligence artificielle et génie informatique est le résultat des longues années d'enseignement et de tout ce qu'on a déjà fait avant même la création du centre de recherche. Donc, la faculté a tout un département d'intelligence artificielle avec des options comme robotique, on avait les jeux vidéo, mais nous avons préféré, avec la tendance actuelle, remplacer cette option par data science. Ici, nos étudiants sont capables, par exemple en intelligence artificielle, au niveau logiciel, par exemple, de vous développer des applications intelligentes qui peuvent faire des prédictions dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux. Je donne un exemple. Nous avons, même dans le domaine des générations, l'intelligence artificielle générative, nous avons...
Professeur Koutangila, je viens de lire la question d'un internaute qui demande si l'IA n'encourage pas la paresse intellectuelle.
Non.
Est-ce que ça ne peut pas rendre des gens paresseux parce qu'ils savent que... Voilà, l'IA va tout faire.
Voilà, je peux répondre à cette question de la manière suivante. L'IA ne développe pas la paresse intellectuelle, mais au contraire facilite la recherche. Si par exemple vous voulez savoir c'est quoi le réseau de neurones convolutifs. Donc si vous demandez l'intelligence artificielle, il va vous donner toutes les explications sur les réseaux de neurones convolutifs. Mais si vous n'y connaissez rien, malgré toutes les explications de l'intelligence artificielle, vous n'y connaissez rien. Donc il faut toujours apprendre, mais l'avantage à ce niveau-là, c'est que ça vous épargne tous les efforts de circuler dans la ville, dans les bibliothèques, de chercher des ouvrages. Ça vous épargne quand même.
Professeur, ça ne va pas encourager les plagiats, surtout avec les étudiants quand il faut faire les travaux de fin des cycles, tout ça, mémoire.
Je pense que les plagiats, même sans intelligence artificielle, a toujours existé. Mais ici, la différence est que l'étudiant ou le chercheur a quand même la facilité d'avoir les données, mais il doit révéler les sources. Parce que moi, je pense, on ne peut pas lutter contre l'évolution, comme avait dit Darwin. Donc, le monde évolue, il faut évoluer ou bien vous restez, vous mourrez, vous disparaissez. Donc, l'intelligence artificielle est là, elle s'impose. Mais nous, au niveau de l'enseignement, nous devons étudier de nouvelles méthodes maintenant de faire face à tout ça. Parce que les outils de l'intelligence artificielle générative, par exemple les copilotes, ChatGPT, etc., vous fournissent les informations, mais avec les sources. Ils vous donnent les sources. Je pense que l'étudiant, aujourd'hui, moi je pense que dans les universités, si l'étudiant dit dans son mémoire que la source est copilote, moi je pense qu'il est honnête. Il est honnête. Parce que à quoi ça sert d'aller souffrir alors que la solution est à portée de votre main?
Bien, nous sommes en direct de l'Université protestante au Congo. Émission spéciale sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Voilà, Tati, rapidement, prenez le micro. On va recueillir 5 questions et puis les intervenants vont répondre.
Merci beaucoup. Je suis Monsieur Emerimbi Lumbala. Je viens de l'université d'Issée Pomad. Je suis le recteur magnifique, professeur Emerine Saman Olutoscar. Je voulais aussi poser une question. Cher professeur, aujourd'hui, l'Issée Pomad parle principalement, nous devons aider les étudiants à lutter contre la pauvreté. Mais avec l'intelligence artificielle, comment déjà un étudiant de L1 ou L2, il peut se faire de l'argent sans pourtant déranger les parents ou la famille avec l'intelligence artificielle? Merci beaucoup, monsieur.
Merci, monsieur. Comment se faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle? D'autres questions? Venez rapidement. Si vous avez des questions, venez de ce côté comme ça. On va vous filmer.
Bonjour à tous. Je me présente, je suis
Moulumba. On prend encore 3 personnes. Venez rapidement si vous avez des questions.
Je suis Moulumba Kalambay, élève à l'université protestante au Congo.
Étudiant.
Élève ingénieur en ingénierie. Comme je le disais, je suis élève ingénieur à l'université protestante au Congo. En fait, ma question se base sur ce que le professeur David vient de dire. Il a dit que si le monde doit évoluer, l'on doit évoluer avec le monde. Et que si l'on n'évolue pas, on risque de mourir derrière. On sera à la peine. Maintenant, ma question est ceci. Si le monde lui-même finissait par mourir, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, en dehors du climat, il apporte aussi certains effets nocifs quant à la crise plurifactorielle dont nous faisons preuve actuellement. En dehors des inondations, il y a aussi l'interruption des cycles biogéochimiques, l'acidification des océans et la pollution. En Europe déjà, pour la RDC, je n'ai pas d'informations.
Tolérance, s'il vous plaît, tolérance.
Mais en Europe déjà, il y a de centaines de personnes qui meurent par année de pollution. Et bien, certes, la technologie, l'intelligence artificielle. Sans parler de...
Quelle est la question, cher élève?
Ma question est celle-ci.
Oui.
Devons-nous, parce que il a dit que Charles Darwin a dit que nous devons évoluer avec le monde, sinon nous allons mourir derrière. La question est celle-ci. Mais si nous avançons avec le monde et que finalement le monde finit lui-même par mourir, parce que l'on pourrait mettre un terme à tout ceci en recadrant l'intelligence artificielle.
D'accord. Merci. Donc on évolue avec le monde et si le monde lui-même disparaît, qu'est-ce qui va arriver? Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. Je me présente, je suis...
Suivez s'il vous plaît, suivez chers camarades. Allez-y.
Je me présente, je suis Ordi Djike, licencié en droit à l'Université islamique du Congo. Et je suis venu poser cette question parce que...
Suivez, sa question est intéressante.
Quelles que soient nos tendances, l'intelligence artificielle nous lie dans un même lot. Il s'est fait que ma question est la suivante. Nos invités nous ont parlé que des avantages de l'IA. Maintenant, d'après ses conséquences, aujourd'hui, nous assistons à ce que nous appelons la cybercriminalité. Quels sont les mécanismes de la restriction de ces flots que nous appelons la cybercriminalité? C'est ça, en fait.
Merci beaucoup pour la question. Monsieur Zef Zabo.
Oui, bonjour, je vous remercie pour la parole. Ma question s'adresse, je pense, au coordonnateur au niveau de la présidence.
Au coordonnateur, monsieur,
oui,
Jean-Luc.
Il y a une question qui a été posée quant à savoir quels sont les effets pervers, justement, de l'intelligence artificielle. Vous en avez cité deux pour dire que les États ne seraient pas en mesure d'être concurrentiels les uns vis-à-vis des autres et deux, de ne pas pouvoir participer à l'économie. Je n'ai pas bien compris cette réponse, ces deux réponses. Je pense que c'est plutôt l'inverse qui se produirait. Mais vous avez semblé dire que ça produirait l'effet pervers. Alors, je n'ai pas bien compris. Deuxième question, c'est la question quant à savoir, justement, j'ai cru comprendre que vous avez minimisé l'effet sur l'emploi de l'intelligence artificielle. C'est à prendre très au sérieux, je pense. Parce que
ça veut dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi.
Et ça crée déjà au niveau du monde, aux États-Unis notamment, des pertes d'emplois, des suppressions de postes et ailleurs. Quelles sont les précautions qui pourraient être prises, par exemple, au niveau de la RDC, où le taux de chômage est déjà de plus de 90%, pour éviter qu'il y en ait davantage à cause de l'intelligence artificielle, que la machine ne remplace pas l'homme? Sinon, l'emploi est voué à se perdre et l'homme est voué à être chômeur toute sa vie à la place de la machine. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonjour, madame.
Bonjour à tous. Je m'appelle Guti Ilele et je suis étudiante à l'Université protestante au Congo. Ma question est celle-ci. Au fait, l'intelligence artificielle est une belle perspective pour la République démocratique du Congo. Mais la question se pose de savoir que nous avons déjà assez de pénuries ici sur le chômage. Est-ce que l'intelligence artificielle va améliorer ou bien va encore approfondir les chômages que nous avons déjà en République démocratique du Congo? Parce que déjà nous avons un niveau de chômage assez élevé et c'est pas tout le monde qui apprend l'intelligence artificielle. Vous voyez? Alors, je me demande, est-ce que c'est vraiment si avantageux que ça pour la RDC?
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci pour la question. Oui, monsieur.
Bonjour. Je m'appelle Eli Kilundu. Je suis...
Bon, on va s'arrêter là pour les questions. Ils vont répondre ensuite. On va revenir. On va revenir pour la deuxième série. Hein? Merci de patienter. Allez-y.
Ouais, je disais, je m'appelle Eli Kilundu, je suis étudiant en L3 LMD FASI sécurité à l'UPC. Donc, j'aimerais poser la question à tous les intervenants. Ma question est celle-ci. Vous nous avez encouragé à utiliser l'IA. Donc, c'est un outil qui fait actuellement partie de nos vies. On peut pas les nier. Mais comment est-ce qu'on pourrait garantir l'éthique et la transparence lors de la prise des décisions, par exemple, dans des domaines sensibles tels que la santé ou soit la justice?
Donnez un cas concret, un exemple concret.
Par exemple, si on utilisait par exemple une IA, un juriste par exemple incompétent, si je peux dire ça comme ça, utilisait une IA sur une affaire quelconque. Il utilisait l'IA pour prendre une certaine décision. Et cette décision, par exemple, ne répond pas à l'éthique de la société.
Un cas concret.
Je n'ai pas vraiment de cas concret, mais c'est juste un exemple.
D'accord. Si c'est par exemple, c'est pour un cas de conflit parcellaire.
Voilà, par exemple.
Voilà. Prenons ce cas-là.
Oui, par exemple, un cas de conflit parcellaire. Il y a par exemple un arbre qui est dans l'autre parcelle et puis les feuilles tombent chez les voisins. Il s'est dit non, voilà. Il utilise l'IA. Il s'est dit qui est responsable de ces feuilles qui tombent, par exemple. Vous voyez un peu.
D'accord. Merci beaucoup pour la question. Pourquoi est-ce qu'on peut les encourager pour toutes ces questions? Bien. Tati Miko, Monsieur Zéphirin, on commence par Monsieur Zéphirin et puis on va. Chaque intervenant va dire un mot.
Oui, j'ai suivi les questions des intervenants. Il y a une jeune dame qui a un peu attiré mes intentions. Je reviens sur le problème de l'emploi. J'insiste. On perd l'emploi quand on manque de compétences. Point. On ne peut pas chasser quelqu'un qui a des compétences. Et donc, soi-disant qu'il y a intelligence artificielle qui existe. Ce qui fait qu'il y a le taux de chômage au Congo, les gens ne sont pas compétents. Nous avons le problème des universités. Quand quelqu'un termine l'université, il pense qu'il est déjà prêt à affronter une vie professionnelle, ce qui est opposé à la réalité. Il faut qu'il y ait un tremplin, il faut qu'il y ait des centres de formation accrédités, avec des équipements, s'il vous plaît. Si, là, je parle des informaticiens. Qui est des académies dans des universités qui suivent le programme officiellement reconnu sur le plan international. On doit vous doter de la matière, on doit vous doter des capacités à travailler. Nous sommes là au bureau. J'ai mes compatriotes ici. On a cherché une assistante administrative, ça fait plus de 3 ans. Toute personne qui passe ne parvient pas à répondre à ça. Et vous allez me dire quoi? Que l'intelligence artificielle est en train d'éviter ces histoires. Donc, vous devez faire des recherches. Après l'université, vous devez intégrer les centres de formation afin d'accumuler les compétences. Donc, cette histoire-là de IA va empêcher de ne pas avoir du boulot, on ne vous engage pas parce que vous n'avez pas de compétences. Il faut chercher les endroits où vous pouvez avoir des compétences techniques, les compétences dont les entreprises ont besoin. Les entreprises n'engagent pas parce que, attention, les entreprises privées ne sont pas des partis politiques. Hein. Donc tu dois avoir un poste parce que tu as travaillé avec nous. Non, les entreprises privées ont besoin de gens qui s'y connaissent, qui maîtrisent de la matière, qui ont des papiers, qui ont passé des certifications, qui sont accrédités. Alors ça, c'est le monde flou aujourd'hui pour les gens qui terminent les universités. Mais en dehors de ça, je sais que le cordon va continuer à expliquer un peu ce qui est les inconvénients sur IA. Mais les compétences, vous devez les chercher vous-même.
Merci beaucoup. Monsieur Jean-Luc Mugongwa.
Bravo pour vos questions pertinentes. Si je peux résumer, j'ai noté 3 types de questions. Donc je vais revenir sur la question de quels sont les risques pour un État s'il n'adoptait pas l'IA. C'était dans ce sens-là que j'avais mon commentaire. Je pense que vous avez également été sensible sur la question de l'éthique de l'IA et de la responsabilité de ces outils. Et enfin, la question de l'emploi. Donc je vais essayer de balayer ces 3 thèmes-là. Concernant les risques pour un État, ou bien même les employés, les personnes qui travaillent dans cet État, de ne pas adopter l'IA, quelle est-elle? Vous savez qu'au niveau international, nous vivons la concurrence des États. C'est que ce sont les États les plus forts qui imposent leur volonté aux États les plus faibles. Et au niveau de l'État, il y a le concept de souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité d'un État de ne pas dépendre d'autres États dans la manière dont il est gouverné, et ça lui permet de se concentrer sur ses missions, le bien-être de sa population. Donc l'intelligence artificielle rendant les personnes et les États beaucoup plus performants, un État aujourd'hui qui ne se tournerait pas vers cette technologie pour sa gestion au quotidien aurait du mal à rivaliser dans le concert des nations. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement en France, la France a organisé le sommet de l'IA. Avant cela, le président Macron avait commandé une étude pour notamment avoir un état des lieux de l'IA pour la France et l'Europe et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer. L'Europe s'est rendue compte qu'elle était très en retard sur ce domaine qui est dominé par les États-Unis d'Amérique et la Chine. À titre d'exemple, entre 2012 et 2023, on peut évaluer à environ 250 milliards de dollars les montants investis par les États-Unis dans le secteur, un peu moins de 100 milliards de dollars les montants investis par la Chine dans le secteur, et environ 20 milliards de dollars les montants investis par l'Union européenne dans les secteurs. Le résultat se voit aujourd'hui. Quand on parle de grands moteurs d'IA générative, quels sont-ils? Vous parlez de ChatGPT, vous parlez de Copilot, on parle de Gemini de Google. Ce sont tous des entreprises américaines. Nous avons ensuite Deep Search, par exemple, qui est un produit chinois qui a été sorti récemment et très rapidement, tout le monde s'est inquiété parce qu'il dépassait de loin les capacités qu'on observait sur ces moteurs américains. Et l'Europe a quelques pépites, mais elle n'arrive pas à suivre. Raison pour laquelle la France et l'Europe sont en train d'investir. Et nous également, nous devons, en tant qu'État, prendre connaissance de cela et commencer à adopter ces technologies. Et il y a des prérequis. Il y a un ensemble de prérequis. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la RDC est dans le top 5 des produits les moins adaptés, des pays les moins adaptés pour pouvoir bénéficier et utiliser l'IA dans les quotidiens.
Quels sont les prérequis pour développer l'IA ici en RDC?
Ok. Les prérequis pour développer l'IA, il y a notamment la question de l'énergie, qui est une question cruciale. C'est que l'IA demande beaucoup d'énergie. Nous avons aujourd'hui des carences d'énergie, je pense que vous les vivez tous les jours dans le quotidien, nous le vivons tous. C'est un domaine sur lequel l'État doit accélérer pour l'IA.
L'électricité.
Nous avons une opportunité notamment, c'est que nous sommes un pays rempli d'eau douce et de rivières. Et nous pouvons assez rapidement pouvoir combler ce déficit. Et nous avons notamment l'agence d'électrification des milieux ruraux qui est en train de travailler sur ces sujets-là. C'est le premier prérequis, c'est l'énergie et de manière générale les infrastructures. Ensuite, il y a les compétences. C'est que la technologie ne se fait pas seule. La technologie se fait par des hommes, pour les hommes. Donc il y a les compétences des personnes qui sont en mesure de créer ces technologies et de les maintenir dans le temps, qui est un premier niveau de compétences, et les élèves qui sont ici dans les filières de génie informatique et d'intelligence artificielle sont les personnes qui vont être amenées à intervenir dans ce secteur-là. Et je félicite l'Université protestante au Congo pour cette initiative qui est importante et salutaire pour notre pays. Et ensuite, il y a les utilisateurs. C'est que aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, l'utilisateur final, peu importe son domaine, devient beaucoup plus performant. Ça veut dire que pour une société, si c'est une société congolaise, ses employés étant plus performants, la société devient elle-même plus performante, la société a plus de marchés et la société concourt au développement du pays. Tels sont les enjeux de l'IA du point de vue d'un État d'une part, des entreprises de cet État d'autre part, ainsi que les personnes qui vivent dans ces États-là. C'est très important, la partie des compétences. Nous avons l'énergie et les infrastructures, nous avons les compétences. Et au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler pour mettre en place les termes de référence pour la stratégie de l'IA. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tous les prérequis, mais il faut qu'un plan puisse être mis en place pour voir sous quel délai, dans quelle mesure, avec quels moyens à mobiliser, la RDC pourra adopter cette technologie et pouvoir en bénéficier. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui dans le plan national du numérique Horizon 2025, qui traduit la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le numérique. C'est un plan qui comprend 69 projets prioritaires qui devaient être mis en œuvre d'ici 2025. Le plan a été adopté par le chef de l'État en 2019. L'Agence pour le développement du numérique que je représente, qui est un service spécialisé de la présidence de la République, a notamment pour mission de s'assurer de la matérialisation de la vision du chef de l'État pour le secteur du numérique. Ça passe à travers l'implémentation concrète de ces 69 projets. Et ce plan national a été adopté par les deux gouvernements précédents et les ministères sont en train de travailler à le mettre en place. Au 30 décembre 2024, son taux de réalisation était de 60%. C'est-à-dire que nous avons, avec 40 projets qui sont déjà opérationnels, c'est-à-dire soit clôturés, soit en cours de réalisation. Et c'est ce genre de plan qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place pour l'intelligence artificielle afin de suivre, piloter et guider son développement au service et au bénéfice de l'État ainsi que des Congolais qui font partie de l'État congolais. Voilà ce que je peux dire comme précision par rapport à votre demande. Ensuite, l'autre thème.
Il y a une question aussi sur l'éthique. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé de l'éthique pour le cas d'un avocat, par exemple.
Merci. J'allais en venir. Donc, l'autre problématique était liée à l'éthique de l'IA. Alors, premièrement, l'IA est une technologie. Les technologies, par essence, n'est pas bonne ou mauvaise. C'est l'usage dont on en fait. Le meilleur exemple est la fusion atomique, qui d'une part produit de l'énergie de manière illimitée, à des coûts qu'on n'a jamais vus et qu'on peut considérer comme vertes, tenant compte des coûts des énergies fossiles. D'autre part, il y a eu la bombe atomique. Donc la technologie, elle, n'est pas bonne ou mauvaise, c'est l'homme. Quand il crée sa technologie, on fait les usages. Et concernant l'IA, il y a une problématique supplémentaire qui se pose, c'est que l'IA a pour mission de singer ce que fait l'homme, de commencer à réfléchir, trouver des solutions dans l'aide à la décision. L'exemple peut-être qui me vient par rapport à l'IA, à la problématique éthique, c'est le cas des diagnostics médicaux. Une IA aujourd'hui, il y a des IA aujourd'hui qui aident les médecins à poser des diagnostics, à détecter des cancers, à proposer
des traitements.
Donc la question qui se pose, quand l'IA ferait une erreur sur ces traitements-là, quelle est la responsabilité? C'est pour ça que derrière, il y a tout un ensemble de principes éthiques qui doit accompagner cette IA-là. Il y a notamment la transparence. Comme on a dit l'exemple ici, c'est que l'IA et les décisions auxquelles elle arrive doit permettre de comprendre quel est le processus qui peuvent être des sources, qui peuvent être un certain algorithme qui a emmené à ce qu'on arrive à prendre telle décision. Donc c'est la transparence. Et puis dans l'aide à des décisions, derrière, il y a toujours un homme qui est là pour acter ou refuser, ou même, en cas de déviance, corriger le programme. Et il y a notamment la problématique de la responsabilité. C'est qu'une IA, si on veut la rendre responsable, quand elle commet quelque chose, qui est responsable? Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, ce sont les créateurs de cette IA-là qui devraient être responsables des actions posées par cette IA, surtout quand elle emmène à beaucoup d'automatisation. Mais les utilisateurs sont les responsables en dernier ressort de ce que produit l'IA. Parce que c'est à leur bénéfice et c'est eux qui décident comment ils sont en train de le déployer.
D'accord. Merci, Monsieur Jean-Luc. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps de donner la parole au professeur Koutangila David. Vous avez suivi les différentes préoccupations. Il y a un étudiant qui a dit même que le monde risque de s'arrêter s'il y a un élève, qui avait posé sa question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces préoccupations-là, par rapport à l'emploi, l'éthique, etc.?
Oui, c'est vrai, nous sommes en intelligence artificielle. Mais l'étudiant doit savoir que le monde s'arrêtera un jour. Ça, c'est tout à fait ce que nous savons. dans le domaine de l'Église, de la religion. Mais je reviens en intelligence artificielle. Si le monde s'arrête, je pense qu'il n'y a pas...
Tout s'arrête.
Tout s'arrête, non? Là, il n'y a pas de réponse à donner. Dès que le monde s'arrête, tout s'arrête. Mais je reviens quand même aux préoccupations beaucoup plus pertinentes, notamment de notre ami de ces promades, par rapport à la création de l'argent. Je pense que l'intelligence artificielle offre beaucoup d'opportunités de se faire l'argent. D'abord, l'argent ne doit pas être un objectif en soi. Pour avoir l'argent, il faut découvrir un problème. Est-ce qu'il y a un problème dans la société qui demande solution?
Et il a dit, il veut, pour que les étudiants ne dépendent plus des parents, à tout moment, recourir, aller voir les parents pour les frais, ceci, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent générer eux-mêmes l'argent grâce à l'IA?
Oui, bon, ici à l'UPC, il y a des étudiants qui ont créé des jeux vidéo. Moi, j'ai vu ça à la collation des grades académiques, des jeux vidéo. Moi, je leur ai dit, m'écouter, ces jeux vidéo, c'est intéressant. Mettez-les en ligne, les gens vont télécharger. Mettez, par exemple, 0,5$ par téléchargement. Mais vous pouvez vous faire des milliards. Essayez d'internationaliser, c'est-à-dire que ça ne soit pas seulement en français, mais qu'il y ait beaucoup
en
de langues.
En anglais aussi.
En anglais, pourquoi pas. Il y a des outils d'internationalisation dans les langages de programmation. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Nous avons un étudiant qui a ici développé, qui a conçu et même mis en place un prototype de poubelle intelligente qui faisait le tri de déchets. C'est-à-dire, vous venez avec vos déchets, vous jetez, mais ce robot-là lui-même s'est orienté tel déchet, par exemple, dans tel récipient, l'autre dans tel récipient. Évidemment, à l'aide de réseaux de neurones convolutifs dont j'ai parlé tout à l'heure et beaucoup d'autres technologies. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il en est arrivé parce que le projet était attendu au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Ça, c'est une façon de se faire l'argent. Et il y a beaucoup de problèmes économiques, environnementaux, sociaux pour lesquels on peut se faire beaucoup d'argent. Je voulais aussi revenir à la question d'éthique. L'éthique, comme venait de dire mon prédécesseur, il y a les développeurs des IA qui sont d'abord les premiers responsables. Moi-même qui vous parle, j'ai développé, par exemple, un logiciel pour le diagnostic des maladies tropicales. Les étudiants sont témoins. À l'époque, on parlait de G3. J'ai donné les cours d'intelligence artificielle, c'est-à-dire vous donnez une série de symptômes, ce que vous ressentez, et le système vous dit, voilà, vous avez beaucoup de probabilités de souffrir de telle maladie, vous devez prendre en fonction de votre âge, de vos antécédents, tel produit, etc. Mais à la fin...
Donc on n'a plus besoin d'aller à l'hôpital.
À la fin, il a ajouté,
oui.
Mais consultez...
Ah, faut consulter les médecins. Oh, ouais.
Là, c'est moi qui mettais ça. Hein? Moi, le concepteur. Mais aussi.
Il faut aller au labo pour les examens.
Ouais, ça dit qu'il vous donne quand même, mais à la fin, j'ajoute la phrase qu'il doit absolument demander au patient de consulter quand même le médecin pour un avis qui confirme ou qui infirme. Bon, alors. Donc, et puis dans le développement, comme j'avais dit à une des conférences ici, on ne développe pas un outil tout seul en chambre. Même mon collègue qui est ici, c'était un spécialiste en intelligence artificielle. Il est secrétaire général de la fonction publique. C'est le top. Alors, donc, nous disons que, de manière générale en informatique, on ne développe pas une histoire tout seul. On est toute une équipe. Il faut appeler des médecins, par exemple pour des problèmes de santé, il faut appeler des médecins, des infirmiers, même certains patients. Et vous réfléchissez ensemble et vous mettez une solution qui devient une solution d'IA.
Voilà. Professeur Tanguila, est-ce que l'IA peut nous aider à résoudre ce problème des embouteillages à Kinshasa?
Oui, bien sûr. Bien sûr. L'IA peut aider à résoudre. D'ailleurs, d'abord, il y a une éducation. D'abord, il y a des outils qu'il faut mettre en place. Même les feux de signalisation, là, les rouges, verts, même pour ne pas parler du robot, ce qu'on appelle communément robot, même s'il n'est pas un robot, je ne voudrais pas entrer dans les détails techniques qui disqualifient l'histoire qui tourne ici, qui les disqualifie de la catégorie des robots, n'est-ce pas? C'est pas un robot. Mais on peut mettre, même avec les feux de signalisation, ils peuvent fonctionner de manière intelligente pour régler la circulation routière sans forcément qu'il y ait des agents de roulage. Dans beaucoup de pays, vous voyez que ces agents-là sont presque inexistants. C'est de temps en temps, on peut le voir, mais les feux sont synchronisés de manière intelligente. Et puis, il y a l'éducation, comme venait de dire mon prédécesseur. Il faut éduquer la masse à respecter aussi. Parce que des fois, les embouteillages qui sont ici, c'est tout simplement le fait que les gens ne veulent pas respecter, tout simplement, les feux et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses que je pouvais dire. Bon, les défis, les opportunités. Voilà. Mais je suis soumis à votre...
D'accord, on va y revenir. Est-ce que il y a quelqu'un qui vient de m'écrire? Est-ce que le secrétaire général de la fonction publique ne peut pas nous dire comment l'IA aide, par exemple, à gérer les effectifs à la fonction publique ou à traiter certains dossiers?
Merci beaucoup. L'IA est d'une grande importance, mais l'IA ne remplacera jamais l'humain parce que l'IA elle-même est conçue par l'homme pour l'homme, afin de pouvoir solutionner des problèmes sociétaux. En ce qui concerne l'administration publique, mais il est important qu'on puisse utiliser l'IA, on se retrouve en face d'1,5 million agents qui constituent pratiquement un big data. Pour pouvoir prendre une décision quelconque, il faut se référer à l'IA, où vous aurez certaines stratégies. Vous aurez les statistiques qui vous permettront de pouvoir décider. Et permettez-moi, quand vous prenez ces 1,5 million agents, vous prenez l'armée, vous prenez la police, vous prenez tout le monde, il est pratiquement pas impossible, mais difficile de pouvoir prendre une décision en temps voulu. Donc il est impérieux que nous puissions utiliser l'IA. Au jour d'aujourd'hui, l'administration publique, la fonction publique, par exemple, quand on parle des fonctions publiques de Tchombo, vous savez connaître si vous êtes mécanisé ou pas. Et l'adresse même de paye, qu'est-ce qui arrivait? On vous paye, vous êtes à Kinshasa, mais votre paye, on l'envoie, je ne sais, dans la Tchouapa. Comment allez-vous savoir que votre salaire est envoyé dans la province de la Tchouapa? Donc c'est grâce à l'IA qu'on peut minimiser certains problèmes. Merci.
Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, au Capi Service en direct de l'Université protestante au Congo, émission spéciale sur l'intelligence artificielle. D'autres questions? On va prendre une autre série de questions. Venez rapidement. D'autres questions par rapport à l'IA? Merci de venir de ce côté, comme ça on peut... Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir Monsieur le Recteur qui a passé une heure avec nous et qui va s'occuper d'autres... Protestante au Congo sur l'intelligence artificielle. Merci d'applaudir encore très très fort pour votre participation.